Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de la saison de Grand Bien vous fasse. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à l'Express. Alors quel est le dernier objet de votre petite mythologie en fin d'émission?
Eh bien oui, puisque c'est la dernière et puisque certains vont se faire la malle, je vais parler de la valise avec un petit flashback sur la trousse.
À tout à l'heure Éric Libiot. Et ce matin pour l'ultime émission de la saison, et comme tous les derniers vendredis du mois, ces livres qui nous font du bien. Pour l'écrivain britannique Alain de Botton, dans son roman Petite philosophie de l'amour, l'amour est une poursuite solitaire dont la signification ne peut être comprise au mieux que par une seule personne, celle que nous aimons. Dans un instant, nos invités vous conseilleront des ouvrages qui parlent de l'amour sous toutes ses formes. Eros, l'amour sensuel, agapé, l'amour du prochain, et philia, l'amitié. L'amour en livre pour mieux le comprendre dans la vraie vie, que l'on soit amoureux ou en quête de sa moitié d'orange. Et vous, dites-nous également si un livre d'amour vous a fait du bien ou a changé votre vie par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Francesca et Adrien attendent vos coups de fil. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Dans votre dernier vie des films de la saison, vous évoquerez un film de Jacques Deray.
Ben, avec un lieu complètement d'actualité pour tous nos vacanciers, la piscine, et avec à l'intérieur un très 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 bel homme. Je souhaite cet homme à tout le monde pour les vacances.
Femme, une très belle femme aussi.
Oui, mais écoutez, moi, chacun parle pour soi. Je souhaite aussi Romy Schneider à tous les messieurs qui partent en vacances à partir de juillet.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Je voulais passer vous voir, j'avais quelque chose à te ramener en urgence. L'amant de Lady Chatterley, je l'ai fini hier soir.
Un délice jusqu'au bout, hein?
Je comprends qu'il ait été censuré jusqu'à maintenant.
Il n'y a pas à avoir honte. Après tout, c'est de la littérature.
Tu l'as lu, Peggy?
Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il y a ce verbe-là qui revient tout le temps.
Je connais ce mot, Joanne.
Moi, je trouve ça triste. Parce que même avec sa réputation, les hommes ne veulent pas le lire, alors qu'ils devraient.
Moi, je dis que ce vieux bouquin montre encore une fois que pour la plupart des gens, le mariage est une farce.
On y déchire beaucoup de vêtements.
C'est un fantasme. Il est marié, elle aussi est mariée. Il succombe au charme de l'interdit et du péché.
Est-ce que je peux te l'emprunter?
Oh, ce n'est pas aussi bien qu'elle le dise. Il y a quelques pages croustillantes. Et le bouquin s'y ouvre toujours de lui-même, c'est fou, hein?
Et ne le lis pas dans le métro. Tu t'attirerais des bricoles.
Un extrait de la série américaine Mad Men, créée par Matthew Weiner. Avec nous ce matin pour partager des livres qui rendent amoureux ou qui permettent de mieux comprendre ce sentiment qui nous anime tous. Christina Pelledouel, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes responsable de la rubrique livres de Psychologie Magazine et auteur de ces livres qui nous font du bien. Initiation à la bibliothérapie chez Marabout. Bonjour Christine Siméon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter. Tout va bien pour vous?
Tout va bien, j'ai des livres en main, je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver de mieux.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Abby.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, de la Très Bonne et de la Très Bonne Revue América. Bonjour.
Bonjour.
Rien à rajouter.
Bonjour Vincent Monadet.
Bonjour.
Président du Centre National du Livre. Et vous publiez chez Payot « Comment faire lire les hommes ». De votre vie, Christina Pelledouel,
oui.
Impossible de comprendre quoi que ce soit l'amour, selon vous, mais il n'est pas mauvais de découvrir que d'autres, bien mieux que nous, savent si bien décortiquer, analyser ce sentiment.
Ah, ô combien. Et alors je crois qu'on va attaquer très fort, parce qu'on attaque avec Guillaume Apollinaire.
Mais dans quelques secondes, mais ça nous aide vraiment, la lecture de livres d'amour, à mieux comprendre ce sentiment?
Alors, oui. Oui, ça aide. Forcément, ça aide. Ça aide à prendre du recul, à pouvoir analyser, à se dire « Ah, ils ont ressenti exactement la même chose que moi, mais moi, je n'arrivais pas à le mettre en mots. C'est si bien dit, c'est si merveilleux. » Puis aussi à découvrir des aspects de l'amour qu'on n'a pas forcément encore explorés.
Guillemette Odissino.
C'est aussi un peu frustrant. C'est quand même dingue, comme dans les livres ou, pour ma part, dans les films, ils vivent toujours des amours nettement plus délicieuses, nettement plus passionnées.
Ou dramatiques.
Nettement plus intéressantes.
Oh, dramatiques.
Christine Siméon, est-ce qu'on a vraiment envie de lire des romans qui parlent d'amour quand on est amoureux?
Alors, moi, personnellement, j'ai jamais envie de lire des romans d'amour. C'est-à-dire, on me dit, ah, oh, ça va être une histoire d'amour, c'est super. Non, je vois pas l'intérêt, en fait, en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'après, je ne me laisse pas surprendre, emporter par la littérature.
Julien Bisson, qu'est-ce qui différencie un roman qui parle d'amour d'un roman sentimental? Au fond, qu'est-ce qui différencie Tristan Iseut d'un roman de Barbara Cartland?
Tous les romans d'amour sont tous des romans sentimentaux. Mais tous les romans sentimentaux ne sont pas des grands romans. Le roman sentimental, fondamentale, vous savez, c'est le roman du conformisme. Ça obéit à un cahier des charges très précis. Et finalement, vous savez, c'est un peu une sorte de conte de fées pour adultes. À la fin, on sait qu'ils vont finir ensemble. Avant, ça finissait par le mariage. Maintenant, ça finit plutôt par des relations sexuelles. Mais
les deux.
Mais de moins en moins le mariage. Et donc voilà, le roman d'amour tel qu'on l'entend de Barbara Cartland, c'est vraiment le conformisme. Alors que l'amour, c'est tout sauf conformiste a priori. Donc les grands romans qui parlent d'amour, justement, arrivent à casser ces codes-là.
Vincent Monadé, les hommes lisent-ils des livres qui mettent en scène l'amour? Il faut rappeler que le lecteur est avant tout une lectrice.
Oui, les hommes lisent assez peu de fiction.
Vous êtes le président du Centre National du Livre, donc bon connaisseur de ce genre de statistiques.
Les hommes lisent assez peu de fiction, donc éventuellement ils peuvent lire des romans d'histoire, enfin des livres d'histoire qui parlent d'amour célèbre, mais en fiction ils en lisent assez peu et ils sont plutôt bande dessinée que roman. Donc a priori ils lisent assez peu de romans d'amour.
Alors est-ce qu'autour de la table il y a des livres qui ont changé votre vie amoureuse? Allez, qui se lance? Christelle Appel-Edouard, c'est pour vous.
Je ne sais pas si les romans ont changé ma vie amoureuse, qui était éminemment remplie, ardente. Donc, j'avais pas besoin de prétentieux. Non, mais j'ai juste envie de faire guichet guillemets, puisqu'elle parlait de sa vie à plat plat. Donc, non. Non, ça n'a pas transformé mon existence.
Mais est-ce que ça vous a aidé
revanche,
à des moments? À des moments.
Oui, à des moments.
Après une rupture, par exemple.
Oui. Alors, ce qui m'a aidé à une rupture, alors c'est d'une banalité à pleurer, c'est la poésie, c'est pas forcément les romans. Et la poésie, c'est vraiment l'art de faire toucher ce qui ne peut pas être exprimé dans un roman, dans une simple intrigue. C'est autre chose, c'est le choc des images poétiques qui fait naître quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on ressent profondément.
Voilà. Julien Bisson.
Moi, on parlait tout à l'heure des romans qui exaltent le sentiment amoureux et qui nous font croire que l'amour est plus grand que nous. Il y a aussi ces romans, vous savez, qui font en sorte de nous faire comprendre que l'amour a un côté très ridicule. Alors ça, c'est Belle du Seigneur, par exemple. Belle du Seigneur, la lecture de Belle du Seigneur nous permet à 20 ans
comme vie, hein.
d'arriver à déconstruire un tout petit peu l'idée de l'amour et arriver à comprendre qu'il faut arrêter d'idéaliser tous ces grands sentiments. Et qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue là-dedans.
Éric Libiot, votre avis sur la question? Je vous réveille.
J'en ai aucun. Je crois que j'ai jamais lu de roman d'amour de
non,
ma vie.
Ou alors,
pardon?
Qui met en scène
non, ou alors moi qui suis très roman noir et très polar, je préfère évidemment l'espèce de mélodrame noir à la David Goudis, où les femmes fatales, où les hommes et parfois les femmes tombent dans les abîmes des sentiments pour leur plus grand malheur et parfois pour un espoir des rédemptions. Mais les romans qui exaltent les sentiments, je suis pas trop friand.
Christine Simier.
Ce qui n'empêche que on peut s'en guérir aussi des ruptures en lisant un bon David Goudis extrêmement noir et poisseux.
Côté lire l'amour ou faire l'amour.
Vous avez choisi.
Moi, j'ai choisi, absolument. Cela dit, je peux quand même répondre sur un livre qui.
Vous
qui
savoir va... ce que vous avez choisi ou.
Vous expliquez en s'entendant.
Écoutez, vous savez quoi? À son œil, je subodore la réponse.
Mais, par contre, c'est un livre d'amour, c'est pas un livre d'amour, c'est un livre qui m'a ouvert à la vie. C'est tout bêtement Les Fleurs du Mal, en fait. Et où j'ai trouvé dans les descriptions à la fois. Des choses, des personnes, des sentiments, etc. J'ai trouvé l'ouverture vraiment aux sentiments, pas forcément amoureux, mais je pense que l'amour ouvre à ça, en fait, à toute la palette de ce que peut être un être humain. Et il m'a semblé que, enfin, moi, j'entrais dans le monde par Les Fleurs du Mal.
Vincent Monadé, honorable président du Centre National du Livre.
Parce qu'une nuit que j'étais couché près d'une affreuse juive, ça m'a jamais personnellement marqué. En revanche, si, le seul qui a changé ma vie amoureuse, c'est Pierre Louis. Voilà, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses à deux, voire à trois, voire à quatre, et j'ai trouvé ça formidable, donc c'est celui-là qui a changé ma vie amoureuse.
Christelle Appel-Edouard, un premier livre à lire ou à relire cet été, un classique français, Lettre à Lou de Guillaume Apollinaire, disponible chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire, et paru en 1915, et vous étiez à l'époque déjà une fervente lectrice.
Hein. Bien sûr, ça faisait bien longtemps déjà, je vous garantis. Oui, alors... Ces lettres à Lou, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Alors Apollinaire est un de mes poètes favoris, voilà, je le dis, c'est un grand cri d'amour que je lance à Guillaume. Si je l'avais connu en 1915, je pense que je serais tombée folle amoureuse de lui.
Il
lui,
avait
peut-être
la grippe,
pas.
Hein.
Non, c'est après qu'il a eu la grippe. En 15, il était sur le front. En 1915, il était sur le front. Et c'était un amoureux absolument extraordinaire. Il a écrit des textes érotiques, mais je vous conseille de les lire, vraiment, si vous n'avez pas eu la chance de le faire déjà. Et donc, en 1915, il rencontre une jeune femme divorcée qui s'appelait Louise de Collignon. Il tombe amoureux et il lui écrit des lettres d'une ardeur absolument. Alors, si les hommes, pour Vincent Monnadet, écoutent ça en ce moment, je vous en supplie, écrivez des lettres d'amour, écrivez des poèmes aussi ardents que ceux de Guillaume Apollinaire. Vous êtes sûr et certain de les faire craquer. Mais alors moi, si Guillaume m'avait écrit des trucs pareils, c'était tout de suite. Quoi.
Lettre à Lou de Guillaume Apollinaire à lire ou à relire cet été. Icari, par courriel, nous dit « Je me suis séparé il y a quelques mois et je ne lis que des romans d'amour depuis pour me réconforter sur le fait que l'amour est encore possible. » Et Alex nous dit « Le livre d'amour qui a changé ma vie et le livre du Kama Sutra. » Voilà, n'hésitez pas à nous appeler.
Bah, décidément, on peut comprendre.
N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Allez, il est temps de retrouver la vie des films de la bonne copine Guillemette Odissino.
La vie des films.
T'as été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, va y aux corneilles. Va surveiller la fricassée.
Guillemette Odissino.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Guillemette, faudra me faire une fricassée quand même.
Ah, mais oui, mais je m'y ferai jamais mais j'adore, hein, vraiment. La fricassée, à chaque fois, ça marche.
Et vous me ferez une fricassée de quoi?
Je sais pas, de cuisseau, de sanglier, quelque chose comme ça, vous voyez?
Bon, alors, cette semaine, pour la dernière de la saison, vous nous racontez la vie à travers la piscine de Jacques Deray en 1969 avec le couple de feu et de glace, Romy Schneider et Alain Delon.
Bon, déjà, vous avez remarqué l'année, 1969. Mm-hmm. Tout ça est extrêmement réfléchi, Ali. Déjà, une petite question. Vous savez ce que c'est qu'une pipistrelle?
Oui.
Non.
Alors, c'est une toute petite chauve-souris. Alors, c'est très important à savoir parce que ça dépend où vous avez passé vos vacances quand vous étiez enfant ou quand où vous allez les passer cet été. Si vous passez vos vacances dans une maison un peu ancienne, une maison de famille, dans le sud-ouest, en Dordogne, faites gaffe quand vous montez au grenier, vous pouvez vous prendre une pipistrelle dans les cheveux. Non, mais elle se cache. Non, mais elle se cache dans le grenier. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite fille. Donc, on a les maisons de vacances comme ça, avec des pipistrelles, avec des jardins de curés un peu mal organisés et tout. Puis après, on grandit, éventuellement on voit des films et on rêve de passer ses vacances sur les hauteurs de Saint-Tropez, avec une piscine sublime et avec des gens très très beaux à l'intérieur.
Tu es bien?
Ça ne se voit pas. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus.
Pourquoi tu leur as dit de rester alors?
Mais je pensais te faire plaisir. C'est ton ami après tout, beaucoup plus que le mien.
Ouais, pourtant dit que toi et Harry...
Qui te l'a dit?
Un peu tout le monde.
Tu m'embêtes.
Aïe, 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 tu m'embêtes. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça c'est le début d'un grand problème de couple. Alors, chers auditeurs, si vous partez donc cet été dans une magnifique maison où vous avez vendu un rein pour louer un truc superbe en Provence, faites attention, n'invitez pas votre ancien amant. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. Surtout quand il arrive avec sa fille, une chose aussi sublime que la délicieuse Mademoiselle Gainsbourg à l'époque, enfin Jane Birkin avant. Il faut pas, surtout quand on est en couple avec Alain Delon, faut pas inviter Maurice Ronet en plus. D'abord, ça fait trop. On peut pas avoir deux types comme ça au même endroit, surtout autour d'une piscine où il fait une chaleur, mais de fou, où il y a les cigales dans le fond qui font x-x-x-x. La jalousie commence à chauffer partout. Et après, évidemment, on est obligé de choisir. Et alors la piscine, non seulement c'est un thriller psychologique absolument merveilleux qu'on peut revoir, découvrir chaque petit détail. On peut revoir en boucle aussi cette scène où Romy s'allonge avec son corps mouillé. Elle vient de sortir de la piscine, elle s'allonge sur Alain. Voilà, ça suffit, elle s'allonge sur Alain. c'est en soi, ça fait déjà un film. Bon, ça a même fait du coup de l'eau sauvage, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Deux acteurs au sommet de leur beauté. Mais c'est aussi un film, si vous continuez à aller jusqu'au bout de cette tension dramatique, qui en fait prouve bien que le conseil que l'on fait, et là je suis très sérieuse aux gens, la nuit, fermez vos piscines, remettez les barrières, mettez des protections dessus, ce n'est pas simplement pour éviter que vos petits-enfants en bas âge tombent dedans, et éventuellement se noie. C'est aussi parce qu'on peut retrouver des corps d'hommes sublimes à l'intérieur. Et ils ont beau être sublimes, s'ils sont morts, on ne sait plus quoi en faire après.
Merci Guillemette Odissino, ce fut un plaisir de retrouver cette chronique tout au long de la saison. Et on vous retrouve le 1er septembre pour une nouvelle saison de La Vie des Films. Et vous, la semaine prochaine, au boulot, pas de piscine?
Non.
On se fait des films tous les soirs?
Moi, je me jette dans le cinéma à bras raccourcis.
Tous les soirs à 20h du lundi au
vendredi.
C'est
de 21h à 23h.
21h à 23h. Et cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Mario et c'est réalisé par Claire Destacan. Alt G in Cold Blood. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Grand bien vous fasse.
D'où appelles-tu ?
J'appelle de chez moi.
Sur France Inter.
Ce jeune auditeur Raphaël que nous avons eu cette année ne peut sans doute pas encore appeler pour nous faire partager ses livres d'amour au 01 45 24 7000. 10h26, comme tous les derniers vendredis du mois, ces livres qui nous font du bien, consacrés ce matin à l'amour avec les journalistes Christy Lapelle-Edouel, Julien Bisson, Christine Siméone et Vincent Monadet, président du Centre National du Livre, et avec nous également mes complices du vendredi, Éric Libiot et Guillemette Odissino. Alors Vincent Monadet, un classique pour bien comprendre le tourment amoureux, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, publié en 1897, et disponible en poche. Pourquoi Cyrano vous touche-t-il autant, Vincent Monadet ?
C'est l'histoire d'un homme laid, amoureux d'une très belle femme, qui aime un autre homme, très beau,
qui croit être sot, parce qu'il ne l'est pas en fait, Christian. Il n'est pas sot du tout, mais il n'a pas le verbe. Et donc le très bel homme donne son l'homme très laid donne son verbe à l'homme très beau, et à deux ils arrivent à conquérir la femme. Et puis l'homme très beau meurt. Et puis l'homme très laid tait son amour à jamais, alors que juste avant que l'homme très beau meure, il allait le dire. Et quand il avoue son amour, même pas, il l'avoue pas, il se fait piéger en lisant une lettre qu'il n'est pas censé connaître par cœur, et elle comprend que c'est lui qui l'a écrit. Il meurt. Voilà. Donc, comme tous les magnifiques textes d'amour,
elle a pas de bol.
Non, elle a pas de bol. Mais elle, on s'en fout un peu en fait.
Voilà. C'est vrai.
Comme tous les très beaux romans d'amour, à mon sens, ils sont très beaux parce qu'ils sont tragiques, parce que quand ils se terminent bien, malheureusement, on les retient moins. Et c'est un pièce de théâtre magnifique. Et il y a ce passage extraordinaire, deux passages extraordinaires. À un moment, lui qui n'a jamais connu de femme, il lui dit juste cette phrase, grâce à vous, une robe est entrée dans ma vie. Et alors ça, pour résumer l'amour, je trouve ça magnifique. Et puis il y a le passage sur le baiser avec qu'est-ce que c'est qu'un baiser, un cœur, enfin voilà, magnifique.
Éric Libio.
Ah oui, moi je crois que c'est un des plus beaux textes du théâtre français, ah, ou des plus beaux textes tout court. C'est pour un comédien le texte le plus long, je crois, du théâtre français. Les grands acteurs y sont essayés, hein, Depardieu. Théroton, on a fait une formidable adaptation moderne l'année dernière, il y a deux ans. Et c'est vrai, alors on connaît la tirade du nez, etc., la lettre, comme vous venez de le dire, mais il y a à chaque fois que moi j'ai vu au moins 5-6 fois au théâtre et j'ai relu, à chaque fois je trouve qu'il y a une poésie, une beauté, une espèce de trivialité comme ça, à la fois une poésie, un mélange de mots savants et de mots triviaux que je trouve remarquable dans le théâtre français et dans la littérature tout court. Je trouve que Ronstan n'est peut-être pas à sa place dans l'histoire du théâtre français.
Non, pas du tout, parce qu'il a écrit ce chef-d'œuvre absolu et que le reste est un peu moins bien, et que donc on lui reproche toujours le reste en oubliant ce chef-d'œuvre absolu, parce que ce chef-d'œuvre a eu trop de succès.
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, à lire ou à relire cet été en poche. Christine Siméon, votre cœur fait boum pour un roman publié en 2017, Patricia de Geneviève Delmas chez Gallimard, et ça se passe au Canada.
Oui, en partie, et aussi à Paris, et aussi un peu en Italie. En fait, c'est une très belle histoire. Je voulais vraiment trouver quelque chose de très contemporain quand vous avez lancé cette idée de parler d'amour, de livres d'amour, etc., parce que je ne voulais pas retourner sur les grands classiques.
Et puis on a bien compris que vous faites l'amour plutôt que...
Vivre l'amour, oui. Ali, vivre l'amour. Et en fait, cette Patricia, c'est une histoire contemporaine, parce que cette Patricia, c'est une femme qui rencontre un réfugié au Canada et qui l'amène à Paris et qui finalement dévoue son existence à cet homme qui sûrement l'aime, mais qui a aussi d'autres enjeux extrêmement vitaux par rapport au fait qu'il a quitté sa famille en Centrafrique, qu'il s'en est éloigné, qu'il a perdu tout espoir, qu'il pense qu'il ne reverra jamais sa femme et ses filles. D'ailleurs, sa femme l'aime-t-il encore, puisque il vit avec cette Patricia qui, effectivement, est tombée amoureuse de lui. Et elle va vraiment épouser la vie de cet homme. Parce que la vie de cet homme, ça va être une vie de migrant à Paris, faisant du travail au noir comme il peut. Et puis un jour, apprenant que sa famille finalement fuit la Centrafrique et est supposée débarquer à Marseille, eh bien, il s'enfuit. Il s'enfuit pour essayer de les récupérer. Je ne vais pas raconter toute la fin de l'histoire. Et elle, Patricia, elle reste là. Elle épouse son histoire jusqu'au bout. Et je trouvais que c'était une vraie histoire d'amour.
Patricia de Geneviève Delmas.
Damas.
Damas, pardon, chez Gallimard. Pan sur le bec. Merci Christine Siméon, vous avez bien raison. Je me suis tellement trompé sur les prénoms cette saison qu'il fallait bien que ça arrive pour cette dernière. Julien Bisson, Les années douces d'Hiromi Kawakami. Je le dis bien là, Julien?
Je crois, oui, je crois.
Publié chez Pic et Poche, a fait chavirer votre cœur.
Oui, alors j'hésitais entre un roman ou une bande dessinée. J'ai pris les deux, c'est-à-dire un roman de Hiromi Kawakami adapté en bande dessinée par le regretté Taniguchi. Donc je pensais qu'on cette année, c'était bien aussi de refaire un petit coup de chapeau à Taniguchi. Alors c'est quoi Les années douces? C'est l'histoire d'une trentenaire qui a ses habitudes dans un bar et qui un soir, y croise un homme beaucoup plus vieux qui a une trentaine d'années de plus qu'elle. Elle le reconnaît, c'est son ancien professeur de japonais. Il est veuf, elle est célibataire, ils dînent côte à côte. Puis elle se retrouve un autre soir, un peu par hasard, ils redînent. Et ça continue comme cela. Petit à petit, ils prennent l'habitude de se croiser et il va se nouer entre eux d'abord une connivence, puis une affection, et qui sait, peut-être d'autres choses. Et je trouve que dans ce récit, on suit avec beaucoup de pudeur, mais aussi tous ces non-dits, toutes ces émotions autour du sentiment amoureux, justement la naissance du sentiment, la beauté de l'instant, tout ça c'est porté par le trait magnifique de Taniguchi. Et je crois vraiment que c'est l'un des livres qui m'a le plus marqué dans sa sensibilité, dans son approche très très pudique et fine de ce que peut être la naissance d'un sentiment dont on ne sait pas encore si c'est de l'amour ou pas.
Alors, Les années douces d'Hiromi Kawakami, c'est chez Piquier Poche et pour Taniguchi,
ça va être chez Casterman.
Alors, Eric Libio, Dalva de Jim Harrison, c'est disponible en 10-18 et ça sert encore et toujours votre cœur.
Mais oui, alors je ne sais pas si c'est un grand roman sur qui fait retrouver l'amour, mais en tout cas c'est un grand roman sur l'amour de la vie. Comment est-ce qu'on peut, c'est l'histoire d'une femme, d'Alva, c'est le grand roman de l'Amérique, c'est Jim Harrison, c'est l'écrivain de la bouffe, de la baise, de la bière, de la pêche, de l'humanisme,
de la vie, quoi,
de la vie, de l'amour, du sexe et de l'Amérique, surtout des grands espaces, qui est mort il y a quelques années. D'Alva, c'est une femme qui essaye de penser ses plaies et qui se remémore sa vie et qui découvre qu'elle a des origines sioux, indiennes, et c'est à travers le cheminement de cette femme, Harrison raconte le grand roman de l'Amérique, raconte la compassion, l'humanisme, et c'est un roman d'une beauté, parce que Harrison, c'est un petit peu, c'est la trivialité, la poésie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Constant, c'est assez ça. Ce type avait un talent fou pour tout d'un coup vous embarquer dans une espèce de lyrisme absolu, à faire pleurer, et puis tout d'un coup il racontait des trucs extrêmement crus, et c'était sa façon d'écrire et qui correspondait d'ailleurs à sa façon de vivre également, et pour ça tous les bouquins d'Harrison sont à lire, et sans doute plus d'Alva que les autres.
Célébrer l'amour de la vie avec d'Alva de Jim Harrison en poche, Guillemette Odissino.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Puis qu'un tel ogre ait créé un tel personnage féminin, ah, c'est magnifique. Là.
Mais il en était amoureux.
Ah, je pense, oui. Bah, et nous, du coup, aussi.
Guillemette Odissino, un livre continue encore et toujours à vous électriser, à électriser vos sens. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, disponible chez Folio.
Ben oui, parce qu'en fait, je crois que je l'ai découvert adolescente. Et c'est fou comme ce livre, on parlait tout à l'heure des livres aussi qui nous apprennent à l'amour. Alors ça nous apprend à la fois que l'amour, comme son nom l'indique, est lourd et léger, ou léger et lourd. Et il faut choisir ou pas. C'est l'histoire, en fait, ça se passe à Prague. Ça commence au printemps de Prague et ça finit avec l'invasion communiste. C'est donc 64 à 68 à peu près. Et c'est l'histoire de quatre personnages, mais surtout trois. Au départ, il y a Thomas, chirurgien, volage, séduisant, ô combien. Il est avec Teresa. Teresa, c'est sa femme, celle qui croit à l'amour pur, qui croit à la fidélité, sauf qu'elle est très au courant que Thomas est très volage, mais elle le supporte, mais elle s'inquiète tout le temps. Et il y a ma maîtresse, Sabina. Alors Sabina, elle est artiste, elle pense que le sexe, c'est créatif, récréatif aussi. Et dans ce triangle amoureux, il y a un quatrième personnage, mais moi que je trouve moins intéressant, qui est l'amant de Sabina, parce que Sabina n'a pas qu'un seul homme dans sa vie, vous l'aurez compris. Et en fait, à partir de ces personnages, Kundera fait d'ailleurs des textes assez courts, des chapitres assez courts. Il croise les vies, ou en tout cas les adultères de ces quatre personnages. Et c'est justement pour poser cette question, en fait, qui est vraiment une question éternelle, philosophique. C'est aussi un livre philosophique, mais d'un accès extrêmement facile. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un livre sur qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que être moderne, c'est considérer que l'amour est léger ? Mais si on est trop léger, c'est incroyablement lourd à porter.
Julien Bisson abonde.
Oui, moi je trouve que c'est aussi l'un des plus grands livres sur l'amour que j'ai pu lire, qui pose beaucoup de questions qu'on se pose tous quand on vit nos histoires d'amour. À qui est-on fidèle quand on est fidèle? Est-ce que l'amour est léger ou lourd?
Est-ce que l'amour est fortuit? C'est aussi l'une des conclusions du livre, c'est que l'amour est un accident et il est très fugace également. Est-ce qu'il faut s'accrocher à un accident ou pas? Enfin, ça, c'est vraiment le livre des grandes questions amoureuses, mais très très facile à aborder, en fait.
Et il nous apprend aussi comment éviter de se faire gauler quand on...
Oui,
parce que on voit tous les stratagèmes de Thomas pour essayer d'éviter de se faire avoir.
C'est vrai que pour l'adultère, c'est un pec, c'est un guide.
Christine Appel-Edouel.
Oui, il y a un aspect qui est intéressant, c'est ce qui échappe
quand on aime, quand on est amoureux, on croit, enfin certains en tout cas dans Kundera, on a l'impression qu'on peut maîtriser, qu'on peut diriger, mais évidemment rien du tout. Enfin l'inconscient revient au grand galop comme toujours quand il est caché et voilà et on se fait avoir quoi.
Christine Simion.
Mmh, et ça me fait penser aussi que l'amour ne n'échappe pas à la pression sociale et au conditionnement social. Le film Adèle nous l'avait fort bien montré en fait qu'on n'échappe pas malgré l'amour. Parfois, sa condition sociale.
L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, disponible chez Folio. Charlotte nous dit par courriel, j'ai lu La nuit des temps de Barjavel quand j'avais 18 ans. J'ai été particulièrement ému par cet amour impossible. À la suite de cette lecture, j'ai même été jusqu'à me faire tatouer l'équation de Zoran, ce qui n'existe pas, existe. À une époque où ce n'était pas encore à la mode, Vincent Monadet.
Barjavel, c'est
La nuit des
temps. Eric en parlait pour Rostand. Barjavel, c'est un des grands oubliés de la littérature française. C'est un écrivain magistral qu'on considère être réservé à des jeunes filles et des jeunes garçons de 15 à 19 ans, alors qu'en fait, il va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et donc, effectivement, La nuit des temps est un livre magnifique. Mais j'irai pas jusqu'à me faire tatouer un truc sur la peau.
Bonjour, Jean-Luc.
Bonjour.
Bienvenue. Vous appelez d'Aurignac.
Oui, un petit village à côté d'Aurignac qui s'appelle Cassagne-Aber. Oui, j'appelle pour parler du Grand Moen. À 8-9 ans, j'ai lu un extrait de ce livre dans mon livre de lecture. Et plusieurs années plus tard, j'ai lu le livre en totalité. Et ça m'avait transformé parce que j'avais 14-15 ans. Et c'était une histoire d'amour parfait, d'amour qui se terminait mal. Apparition, disparition, recherche, poursuite. Et j'avais été très touché par ce texte, et quelque chose qui se termine mal, mais une très belle histoire d'amour, et puis une naissance d'un enfant.
Qu'est-ce qui reste du Grand Moen dans vous aujourd'hui? Je sais pas quel âge vous avez, Jean-Luc, mais...
58 ans. Il reste que Alain Fournier a écrit, je crois, un seul livre, c'est celui-là, et que c'est devenu un classique, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. Je sais pas ce que serait devenu Alain Fournier s'il n'était pas mort à la guerre, mais bon... Il reste que l'amour peut être contrarié, l'amour peut se réaliser, peut être rempli, total. Je veux dire que je vis ça en ce moment, mais il peut être aussi contrarié, et c'est ce qui fait les livres. Et je voudrais parler aussi d'un autre livre que j'ai lu beaucoup plus tard, qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles, qui a pour théâtre la guerre. Je suis grand amateur de romans policiers, et dans ce roman de Sébastien Japrisot, un maître de ce genre, Japrisot nous parle d'amour, de recherche, de déception, de retrouvailles, d'amour d'une mère qui trahit, enfin qui ment, parce qu'elle retrouve un enfant qui n'est pas le sien.
Mais est-ce que Jean-Luc, par exemple, Un long dimanche de fiançailles, ça vous permet de mieux comprendre votre vie amoureuse, les tourments amoureux, les joies de l'amour? Est-ce que ça vous aide, la lecture d'un roman qui met en scène l'amour, comme celui de Sébastien Japrisot?
Alors, c'est-à-dire que moi, ça m'aide dans le sens où, au départ, je lis un roman policier et je tombe sur une histoire d'amour. Et ça, c'est la grande surprise et c'est un grand bonheur parce que le roman policier est là, mais l'histoire d'amour est là aussi. Et c'est ça, la surprise. Et c'est ce que je garde beaucoup de l'histoire d'amour et un peu du roman policier.
Guillemette Odissino.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un grand bouquin de Sébastien Japrisot. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Cette surprise soudainement de tomber dans un grand romantisme, mais au sens noble du terme, et cette quête amoureuse absolument obsessionnelle. Mmh. C'est magnifique. On aimerait que tout le monde nous cherche comme ça.
Éric Hibiot.
Mais tiens, Japrisot, voilà encore un auteur, Sébastien Japrisot, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ouais. On a l'impression que c'est juste un faiseur de romans policiers comme compartimenture et tout ça. Un long dimanche de fiançailles est effectivement une histoire d'amour. Moi, j'y vois plutôt une espèce d'intelligence de construction de récit qui est absolument, entre les lettres, les flashbacks, etc., qui est mais absolument incroyable. Il fait autant aimer l'amour que la littérature parce que c'est un immense livre, mais vraiment, c'est un très, très grand livre.
Vincent Monadet.
Bah oui, et puis, puisqu'on est sur les histoires d'amour, j'ai pas grand-chose à rajouter sur Le long dimanche, qui est extraordinaire, mais il y a aussi La blonde dans l'auto avec un fusil.
De qui
De Japrisot toujours. Et aujourd'hui, on célèbre Echnoz. Aujourd'hui,
piège
on célèbre Echnoz à juste titre. Et en fait, La blonde dans l'auto avec un fusil, c'est du Echnoz avant Echnoz, évidemment. Et c'est aussi une magnifique histoire d'amour.
Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir donné envie de lire ou de relire Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre la dernière fausse pub de l'année de François Audouin.
I love the colorful clothes you wear and
and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Boys, good vibrations.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Madame, vous venez de vous séparer de votre mari et la perspective d'un été sans feu ni flamme vous déprime? Offrez-vous la toute nouvelle liseuse numérique Poodle Vibes. Grâce à ses capteurs génito-sensoriels, la liseuse Poodle Vibes détecte les passages les plus torrides de votre livre érotico-sentimental et prolonge intensément le plaisir de votre lecture.
Ah !
Fini les frustrations après avoir dévoré la collection Harlequin. Vous vous mettez littéralement à la place de l'héroïne.
Ah !
Oh ! Oui, c'est fou, non ? Et pourquoi je parlais avec cette voix ? Ah, moi aussi, j'ai chaud tout à coup. Ah, mais comment on l'arrête ? Voilà. Bref, à lire avec modération quand même. Hein. Et bonnes vacances.
La fausse pub du vendredi avec la voix de François Audouin et de Claire Destacan, notre réalisatrice. Et il paraît, Vincent Monadet, vous êtes le président du Centre National du Livre, que ça existe.
Oui, oui, ils l'ont présenté au Salon du Livre de Paris. Alors, je ne l'ai pas acheté. Parce que, voilà.
La fiction débat de la réalité.
Existe.
D'accord. Bon, non, mais je ne savais pas.
Pourquoi ça n'est pas une vraie pub, en fait.
Comme tous les derniers vendredis du mois, ces livres qui nous font du bien, consacrés ce matin à l'amour avec les journalistes Christy Lapelle-Edouelle, Julien Bisson, Christine Siméon et Vincent Monadet. Christina Pelédouelle, un ouvrage sur le baiser de Belinda Cannon.
Eh oui, alors.
En poche et 10-18.
Ouais, alors vous connaissez bien Belinda, qui est une amie à nous. Qui est écrivain, essayiste, romancière. Qui est quelqu'un qui parle beaucoup du désir. C'est une de ses préoccupations majeures. Qu'est-ce que c'est que le désir? Comment se développe-t-il? En quoi il nous pousse à vivre? Enfin bon, elle a écrit récemment un très joli petit livre sur l'émerveillement. Je crois que vous en avez parlé. Et celui-là est un livre qui a déjà quelques années, dans lequel elle se demande ce que c'est que le baiser. Alors, elle ne parle pas vraiment d'autre chose que du baiser amoureux, qui est quand même la chose qui la préoccupe le plus, et on peut la comprendre. Mais c'est un livre extrêmement délicat, et dans lequel elle réfléchit à cette espèce de sphère enchantée, elle emploie ce terme, du baiser. Et elle fait remarquer quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, le baiser, c'est union, communion, tout ça, ce sont des lieux communs. Mais elle fait remarquer qu'on ne peut pas décrire, et que d'ailleurs dans la langue française, il n'y a pas de mots particuliers pour décrire les différentes sortes de baisers. On ne peut employer que des périphrases, des métaphores, voilà, on embrasse. Le bisou, c'est autre chose. Le baiser amoureux n'a pas de qualificatif particulier. Et elle entre dans cet univers du baiser d'une manière à la fois extrêmement intelligente, littéraire, et aussi très érotique, parce que Belinda a cette qualité de savoir parler de l'érotisme. D'ailleurs, il lui est arrivé de lire des livres érotiques de manière très très chouette. Voilà, en ayant l'air de parler d'autre chose, presque.
Guillemette Odissino.
Non, quand même, il y a Bécoté.
Oui, mais Bécoté...
Et après, il y a un mot très inélégant pour le vrai baiser.
En galoché.
Oui,
embouché.
On dit rouler une pelle. certes, tout ça n'est pas très romantique, mais
non, mais il n'y a pas vraiment une terminologie qui permette de définir exactement
les différents stades.
Et
Belinda Cannon qui donne ce conseil aux embrasseurs. La poire, rien ne vaut la poire pour rendre l'haleine délectable. Ne jamais se résoudre à la menthe qui dénonce l'artifice et l'intention. La poire, mine de rien, parfume et sucre la bouche délicieusement et avec naturel. À vos poires cet été, après un baiser. Voilà, donc le baiser de Belinda Cannon, c'est chez 10-18. Julien Bisson, une BD assez troublante qui explore les premiers émois. Amoureux et sexuel, une sœur de Bastien Vivès, publiée chez Casterman.
Je vous parlais tout à l'heure d'une histoire d'amour avec un homme beaucoup plus vieux que la dame. Là, c'était un homme plus jeune que la dame, puisque c'est l'histoire d'Antoine qui a 13 ans, qui passe son été en vacances à la plage avec son petit frère. Et puis arrive Hélène, 16 ans, qui débarque avec sa mère pour quelques jours. Et ils vont se lier d'amitié pendant une semaine. Et puis c'est un petit peu plus que l'amitié quand même. Ils vont découvrir, sous le crayon de Bastien Vivès, les premiers émois adolescents, ceux où l'amour est synonyme d'éveil à l'autre, de découverte du désir, de découverte aussi un peu des plaisirs de la chair, du frisson de l'interdit. C'est porté par le dessin minimaliste de Vivès, mais surtout c'est porté par, vous savez, ce moment où on ne sait pas encore ce que c'est le sentiment qui se lie entre deux êtres. Et d'ailleurs, le titre du livre, Une sœur, joue avec cette ambiguïté qui est celui de l'amour philia ou de l'amour passion. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance dans cet album qui évoque un peu, vous savez, certains films des années 80 où il y a une espèce de fausse innocence qui nous permet de nous rappeler de ces amours de vacances, de ceux à qui on repense les yeux pleins de chagrin.
Qui partage l'enthousiasme pour Une sœur de Bastien Vivès.
Oui, bien sûr. Vraiment un très, très beau roman graphique, très délicat, avec cette représentation des émois adolescents qui arrive et en même temps cette jalousie qui pointe, c'est vraiment très beau.
Alors Christine Siméon, un roman plein d'espoir, La séparation de Dan Frank chez Point Seuil.
Oui, ça peut surprendre d'offrir un roman pareil pour des amoureux, aviez-vous dit, mais en fait, Dan Frank a écrit ce livre en 90-91, il a obtenu le Renaudot pour ça, et il raconte l'histoire d'une séparation, c'est-à-dire d'un homme à qui d'un mari à qui on annonce, sa femme annonce qu'elle va le quitter. Et de là part une espèce d'observation amoureuse absolue de cette femme qui, tout à trac, lui annonce cette séparation. Et du coup, je me suis amusée là, juste à rouvrir comme ça au hasard noir. Le livre, pour la première fois, ils se battent de front, sans élégance, déchaînés. Toute l'énergie retenue de part et d'autre depuis des semaines fond sous la violence du brasier. Ça, c'est pas le baiser, mais là, c'est vraiment... Et cette dernière phrase là que je viens de relire à l'instant, je vous la livre parce que je trouve qu'elle va... Il dira avec espoir que notre histoire à tous, désormais enclose dans nos songes et nos mémoires, y demeure comme le sillage délicat d'une élégance. L'amour reste une élégance.
La séparation de Dan Frank, disponible en poche. Et on nous dit par courriel, je n'ai pas le prénom ni le nom, c'est anonyme. Ah non, c'est Elisabeth. Voilà, Elisabeth qui nous dit « 20 ans et un jour » de Georges Semprin est un superbe roman sur l'amour et sur le désir. Un livre qui m'a donné envie d'aimer pleinement et d'aimer charnellement, à faire lire à tous les jeunes couples. Alors, plus remonté, nous avons Cécile qui nous dit « Je suis hétéro et je suis atterré par votre émission. Quelques jours après la Gay Pride, le lendemain de la cérémonie des Outdoors, Romy Schneider est forcément un fantasme de tous les hommes et Alain Delon celui de toutes les femmes. Et votre sélection de livres, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. À la rentrée, ce serait bien de faire un peu de place à tout le monde. » Guillemette Odissino, qu'est-ce qu'on répond à Cécile ?
Ah bah non, mais on répond que Alain Delon est aussi un fantasme pour les messieurs et Romy Schneider un fantasme pour les dames. Enfin, que effectivement, ça peut être agacé Cécile, mais on n'a pas pensé à genrer. Mais est-ce que l'amour se genre ?
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, je pense que l'amour, c'est un sentiment universel et voilà, qui traverse les âges, les genres. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire une chose sur Le Grand Monde dont on a parlé tout à l'heure. Le Grand Monde, pour moi, est un grand roman homosexuel, caché, qui ne dit pas son nom, mais c'est évident que l'amour qui parcourt, l'amour fou qui parcourt ces pages, c'est l'amour d'Augustin Mohn pour France, et voilà, France de Ganay.
Et on vient d'apprendre, et je suis un peu ému de l'apprendre, la mort de Simone Veil à 89 ans. Oh, et vous aurez évidemment davantage d'informations dans quelques minutes dans le flash de 11h. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci Christine Lapelle-Edouelle. Ces livres
merci
qui nous
beaucoup
font du bien. Initiation à la bibliothérapie chez Marabout. Vincent Monadé, comment faire lire les hommes de votre vie. C'est
merci
disponible chez Payot. Merci Christine Siméon de la rédaction de France Inter. Merci Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1 qui intègre notre équipe à la rentrée. Et j'en suis très heureux. Hein, vous aussi?
Oh, ça se voit. J'en suis très heureux également aussi. Je vous dis à la rentrée après des vacances bien méritées.
Tout de suite, la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Eric Libio de l'Express. Éric Libio, quel objet avez-vous choisi pour cette toute dernière petite mythologie d'un objet du quotidien ?
Eh bien, vous verrez bien ce que j'ai choisi, mais avant, je ferai un petit flashback parce que les fidèles de cette émission et les amoureux de la voix chaude et sensuelle d'Ali se rappellent peut-être que la toute première chronique que j'ai eu le plaisir de faire ici était consacrée à la trousse scolaire.
Oui.
Je me demandais alors s'il y avait une trousse de droite et une trousse de gauche. À l'époque, il y a 10 mois, les choses étaient encore à peu près claires. La trousse de gauche était un grand fourre-tout abracadabrantesque sans place déterminée au crayon et au stylo, alors que dans la trousse de droite, il y avait une place pour chaque chose, la gomme, le compas, le feutre, et le gros stylo 4 couleurs régnait en chef, mais ça, c'était avant que La République En Marche ne détrousse les bancs de l'Assemblée Nationale. La trousse de droite est aujourd'hui un grand fourre-tout sans place déterminée au crayon et au stylo. Un fourre-tout d'ailleurs un peu usé par les mois qui se sont écoulés, à tel point qu'il y a un trou dans la trousse et que les crayons se taillent ailleurs. La trousse de gauche, elle, est tombée dans la poubelle à papier. Il va falloir en racheter une neuve à la rentrée, mais on n'en connaît pas encore ni la couleur, ni la taille, ni la forme. On fera un point sur la trousse à la rentrée, Ali, si vous le voulez bien. Mais aujourd'hui, on va regarder de plus près la valise, puisque certains vont se faire la malle en vacances. La trousse, la valise, la vasile, la trousse, pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour se rendre compte du cousinage de l'un à l'autre. On y met des crayons ou des vêtements, elle se transporte, elle se fermeture éclair, elle se personnalise, etc. La valise est le grand format de la trousse finalement et on peut donc se demander, existe-t-il une valise de gauche et une valise de droite ? La valise de droite est-elle rigide quand la valise de gauche est souple ? Alors on aurait pu répondre oui il y a encore quelques temps, mais ça c'était avant. Mais puisque rien ne ressemble plus à l'intérieur d'une valise que l'intérieur d'une autre valise, ce qui change c'est l'extérieur, la couleur, le matériau, la taille et donc l'image qu'on veut donner de soi. La valise est le théâtre des apparences. Sauf que maintenant, il n'y a pas que des valises rigides ou souples, il y a aussi des valises semi-rigides. Et là, je pose la question, comment est l'autre moitié de la valise semi-rigide, si ce n'est souple ? Une valise semi-rigide est donc aussi une valise semi-souple, on est bien d'accord. Elle est souple et rigide en même temps, ou semi-souple rigide, c'est donc la valise flexi-sécurité. Et oui, la valise macronique, la valise qui marche comme sur des roulettes. Et comme pour la chaussette dépareillée que j'avais chroniquée il y a quelque temps et dont la mode avait été lancée par un Emmanuel Macron très jeune, la valise flexi-sécurité a aussi été lancée par Emmanuel Macron il y a plusieurs années pour préparer le monde à sa présidence. Nous avions tous ces objets sous les yeux et personne ne s'en était rendu compte, c'est presque effrayant. Emmanuel Macron n'est en fait pas Jupiter, c'est Juve et Fantomas réunis. C'est le mariage de Louis de Funès et de Jean Marais. Et même si ça se trouve, toutes les chroniques que j'ai faites cette année étaient commandées en sous-main par le président de la République sans que je m'en aperçoive. Mais c'est horrible! C'est horrible, et tant que je parte en vacances, mais on a décidément la petite mythologie qu'on mérite.
Merci beaucoup Éric Libio de l'Express. J'ai vraiment adoré votre mythologie d'un objet du quotidien que nous retrouverons à la rentrée. Et c'est ainsi que s'achève cette première saison de Grand Bien Vous Fasse. Merci à tous ceux qui avaient suivi Grand Bien Vous Fasse tout au long de la saison. Merci à vous tous qui avez podcasté cette émission en nombre. J'aimerais remercier ma très belle équipe. J'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec Alexia Rivière à la fiabilité en acier, Claire Destacan à la générosité en or, Lorraine Bess à la fois warrior et sensible. J'aimerais remercier notre stagiaire Clara Merliot qui a effectué un remarquable travail, notamment sur les réseaux sociaux et la documentation. Bon vent à toi Clara. Merci également à Jérôme Boulet, Laure Grand Besançon, Théo Denmat, à la programmation musicale Muriel Pérez. Merci à tous les chroniqueurs qui ont brillamment éclairé cette émission tout au long de l'année. Laurent Delmas, c'est vous à 10h lundi. Hein,
vous avez les clés?
Ouais, tenez, je vous donne les clés.
Merci
du studio.
Beaucoup, c'est sympa. Je vous rendrai dans l'état dans lequel
il est. Et donc
à 10h,
qu'est-ce qu'il y aura à 10h?
À 10h, on va chanter et on va écouter les extraits de films en même temps. On va faire Ciné qui chante. Voilà, c'est une émission sur la convergence permanente, absolue, de la chanson et du cinéma sous le l'égide d'Yves Montand. Ciné qui chante, c'est un titre de 3 places pour le 26 de Jacques Demy.
Et ça va être bien.
Ah bah bien sûr, ça va être bien. Oui, il y aura plein de chansons, plein d'extraits de films, des archives aussi et quelques invités, dont Emmanuel DeVos, entre autres. Voilà.
À la technique ce matin, merci beaucoup Laurent Delmas. Je vous souhaite un très bel été à France Inter à 10h. À la technique ce matin, Élise Christophe et Stéphane Boja. Et je dédie donc cette émission à Simone Veil qui vient de mourir à l'âge de 89 ans. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute de France Inter et je vous retrouve le 28 août à 10h. Bon été à vous.